Bonsoir. De nombreux experts pensent que la décision du président américain Donald Trump de fermer l'agence américaine pour le développement international, USAID en sigle, va impacter négativement la vie des nombreuses personnes dans les pays concernés. Ce dernier estime que cette décision marque la fin d'une ère d'assistance humanitaire et le début d'une période de turbulences économiques et sociales sans précédent. La RDC bénéficiait d'un soutien crucial d'environ 1 milliard de dollars américain de l'USAID chaque année, selon des sources proches de cette agence. C'est dans le cadre d'exécution des projets dans des secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, la santé et la gouvernance, une aide qui créait de nombreux emplois et qui contribuait à atténuer tant soit peu les souffrances des communautés locales. Que faire pour répondre aux besoins des populations locales après la coupure de financement de l'USAID? Nous en parlons ce soir avec le professeur Michel Bissa, professeur à l'université de Kinshasa. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire des recherches en sciences sociales. Professeur Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
Avec nous dans ce studio, Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Saleh, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Augustin Karoumé, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est doyen de la société civile du Sud Kivu, activiste des droits de l'homme et consultant indépendant avec plus de 30 ans d'expérience en gestion des crises humanitaires en RDC et ailleurs, très engagé dans le processus de localisation de l'aide humanitaire à Bounia dans la province d'Elitouri. Vous nous trouvez sur la 104.9 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radio-capi.net sur la TV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Des milliers de personnes sont affectées par la décision du gouvernement américain de suspendre les activités de l'Agence de développement international USAID en sigle. Cette agence intervient dans les financements de plusieurs organisations non gouvernementales en RDC, particulièrement en Ituri. De nombreux projets qui bénéficiaient de ce financement à travers la province sont suspendus depuis l'annonce de cette mesure. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Plus d'une dizaine d'ONG exécutent des projets en Ituri grâce au financement de l'USAID. La plupart de ces organisations interviennent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de la résolution des conflits, de la gouvernance sécuritaire ou encore de la stabilisation. Mais depuis la suspension des activités de l'USAID par le gouvernement des États-Unis, tous ces projets sont suspendus sans espoir de reprendre. Un désarroi pour non seulement ces organisations, mais aussi pour des milliers de bénéficiaires à travers la province, où le besoin en assistance humanitaire est accentué avec les violences permanentes, notamment dans le territoire de Djougou. C'est ce qu'explique cet acteur humanitaire qui a requis l'anonymat.
À part ce contexte de déstabilisation qui est connu l'Ituri actuellement, l'Ituri est encore dans le contexte humanitaire aussi. Il y a beaucoup de personnes déplacées internes qui bénéficient des assistances humanitaires fournies par les dons de l'USAID. Nous allons connaître beaucoup des besoins qui vont s'accroître au-delà de ceux qui étaient déjà là. Nous allons demander aux autres bailleurs de fonds, par exemple l'Union Européenne. Il y a aussi les Japonais, les Anglais, les Britanniques, les Suédois, les Hollandais, qui ne puissent pas cesser d'appuyer le gouvernement congolais.
Il ajoute par ailleurs que le gouvernement congolais, à travers son ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, devrait maintenant prendre ses responsabilités en main. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Capi.
Merci Sadiki Aboubakar pour ce reportage. Professeur Michel Bissa, je rappelle que vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance et un laboratoire de recherche en sciences sociales, mais également professeur à l'université de Kinshasa. Comment vous avez accueilli la décision du gouvernement américain de suspendre les activités de l'Agence américaine pour le développement international USAID?
Merci beaucoup, madame. D'abord, il faut expliquer cette décision sur le fait que ce n'est pas qu'une décision qui ne vise que la RDC, C'est pratiquement au niveau des États-Unis pour le monde entier, excepté deux pays, l'Israël et l'Égypte, hein, qui sont maintenus. Mais aussi, c'est une décision prise momentanément pour 3 mois. Après ces 3 mois, les Américains vont étudier au cas par cas ce qui va se faire. Alors, chez nous ici au Congo particulièrement, nous pouvons lire les conséquences, enjeux et impacts à 6 niveaux différents. Premier niveau, c'est une mutation grave de la perception de l'État tel que nous avons connu l'État en 1945. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique se rendent compte avec Donald Trump qu'ils sont en train de perdre l'hégémonie, notamment sur le plan économique. Ils veulent se recroqueviller sur eux-mêmes en analysant un certain nombre d'éléments, aussi bien au niveau international qu'à l'interne. Il faut savoir que chez eux-mêmes, ils sont même prêts à supprimer le ministère de l'Éducation. Et chez nous, en Afrique particulièrement, ils constatent qu'il y a un sentiment anti-Occident. Et politiquement ou géopolitiquement, il veut apporter une solution à cela. Et je vous assure que les Africains comprendront très vite que les États-Unis d'Amérique jouent un grand rôle. Deuxième élément, il faut noter c'est quoi au juste chez nous. Il s'agit de 70% des opérations humanitaires en RDC. L'USAID était en train d'intervenir à travers les agences onusiennes, les sociétés, les organisations de la société civile, en finançant 70%. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, nous avons un drame humanitaire aussi bien à l'est avec la guerre qu'à l'ouest avec la question de Mobondo, où, en tout cas, beaucoup de Congolais dorment sous la belle étoile, et c'est l'aide de l'USAID qui était en train de l'aider, vous l'avez bien dit, avec à peu près 1 milliard de dollars américains, des programmes dans les domaines de la santé. Disons dans le domaine de la santé que c'est l'USAID qui pratiquement finance plus de 80% des antirétroviraux, ces médicaments qu'on donne aux personnes vivant avec le VIH-SIDA gratuitement, les médicaments contre la tuberculose. C'est en tout cas l'aide de l'USAID qui fait que les gens ont ça gratuitement. Plusieurs programmes d'éducation, même de gouvernance, hein, la lutte contre la corruption, la sécurité alimentaire, la lutte contre les Kouachoko dans les Kassai, dans les Kwilu, c'était aussi l'USAID. Donc cette suspension va effectivement amputer tous ces secteurs-là et ça sera dommage. Il n'y a pas que les ONG ou associations de la société civile. J'ai suivi un responsable de l'Organisation des Nations Unies dire que plusieurs agences onusiennes sont en berne. Troisième élément, c'est la crise humanitaire et sécuritaire que cela va produire, ou à moins accentuer au niveau de chez nous. Nous avons aussi une dimension socio-économique et gouvernementale. Parce que cette crise, cette fermeture de l'USAID va accentuer le chômage, va exacerber les pressions sociales et politiques sur un gouvernement qui est déjà en difficulté de résoudre un certain nombre de problèmes parce que il doit faire prioritairement face à la guerre. Donc, en tout cas, d'ici la fin du trimestre, vous allez voir qu'il y aura énormément de grèves, de marches de la société civile, de chômeurs qui vont accentuer les pressions et les États africains qui ne prendront pas la mesure de l'événement ou des mesures anticipatives risquent de connaître des coups d'État. Donc, nous avons l'affaiblissement de la gouvernance que cette aide va provoquer. Vous savez que c'est grâce notamment aux actions de l'USAID que la gouvernance carcérale dans la prison de Makala a été suivie. Je parlais de l'action de la LICOCO, la Ligue Congolaise de lutte contre la corruption et plusieurs autres structures qui étaient en train de bénéficier de cette supervision. Mais également, l'USAID a aidé à mettre en place le mécanisme de transparence dans le secteur minier. Là aussi, ils étaient en train de temps en temps d'accompagner la publication de l'indice de corruption et de surveillance des minerais. Enfin, je pense qu'il y a aussi un défi au niveau de la GOA. La GOA, c'est ce mécanisme africain qu'on a appelé African Ground and the Opportunity Act, GAGOA. C'est un accord commercial qui est favorable à plusieurs pays africains dans la RDC et qui visait notamment les relations commerciales entre les pays africains et les USA. Cet accord devrait prendre fin en 2025 et donc là aussi c'est un élément qui va perturber. Mais vous savez aussi, madame, cette rupture est encore très téméraire à partir du moment où elle intervient de manière quasi inattendue. Vous savez que le président sortant des États-Unis était en Angola il n'y a pas longtemps, en décembre dernier. Il avait même déjà promis encore pour des États comme la RDC et autres presque 1 milliard d'interventions à travers notamment l'USAID. Et donc les États africains, sachant que les États-Unis d'Amérique sont dans la continuité de l'État, ils ne pouvaient pas s'imaginer que déjà en janvier ou février, tout sera coupé brusquement. Donc voilà un peu, madame, de manière globale, comment nous pouvons décrire les conséquences de ce qui va arriver. Mais je dis encore que ce n'est pas une fatalité. Les perspectives et les solutions existent.
On va en parler, professeur Michel Bissa. On va parler des solutions et perspectives dans cette émission. On retient donc que ça aura un impact vraiment très palpable, visible sur les populations des pays concernés par cette mesure. Professeur Dadi Salé, vous êtes avec nous dans ce studio. Vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. On a suivi le professeur Bissa nous dire que cette suspension va aggraver les problèmes de développement déjà présents en RDC, notamment la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les épidémies, la santé. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement américain?
Ouais, tout en maintenant effectivement tout ce que vient de dire le professeur, mon co-débatteur de l'INIKIN, je pense effectivement, je me sens très à l'aise parce que là nous parlons d'une agence pour le développement international et qu'effectivement on peut bien se poser des questions. Depuis 30 ans, qu'est-ce que l'USAID a apporté en termes de développement international? Et effectivement, cause à effet direct, on peut se poser la question, depuis les indépendances, par exemple en République démocratique du Congo, est-ce que la République démocratique du Congo s'est développée comme échantillon? C'est avec ce petit questionnement, n'est-ce pas, qu'on peut essayer de faire des contributions. Parce que j'estime effectivement qu'en développement, on parle des impacts à court, moyen et long terme. Et je suis bien d'accord avec mon co-débatteur et avec beaucoup d'analystes d'ailleurs qu'on a suivi par-ci par-là. À court terme, c'est une catastrophe. À court terme, il y a des organisations, il y a des orphelins, il y a des zones de santé. Moi-même, j'ai travaillé pendant longtemps avec un programme d'ELIS qui était financé par l'USAID, une organisation américaine, et que effectivement, je ne cite pas. Et effectivement, écoutez, on faisait beaucoup de choses. Presque toutes les zones de santé dépendaient peut-être à 30% de ces fonds-là. Donc aujourd'hui, quand on coupe, je connais personnellement les conséquences dans ce sens-là. Mais nous l'avons dit déjà dans son temps. C'est qu'ici, il faudra que le pays effectivement sous-développé ou bien en voie de développement puisse faire une réflexion à court, moyen et long terme. Parce que tout ce que le professeur a dit, c'est vrai. Les effets à court terme sont immédiats et c'est une catastrophe. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais si nous lisons d'abord, c'est quoi une aide? Une aide, il s'agit effectivement de quelque chose qui vient parce que vous en avez besoin et que vous n'en avez pas. Je donne une définition simple, facile. Quelqu'un a besoin de quelque chose, mais il n'en a pas. Donc, il est déjà dans une situation de non-autonomie. Non, nous parlons des gens qui n'ont pas l'autonomie. Or, d'entrée des jeux, j'ai dit déjà, moi, ma philosophie, c'est Kujitegemea, Tomilukela, Tusosangemosi, Tujikebela. C'est-à-dire, l'homme doit être capable de se prendre en charge. Or, une aide devait être une exception. L'aide devait être une exception parce que tout homme devait être capable de se prendre en charge et devait vivre de son travail. Donc l'aide étant une exception, comment est-ce qu'on peut prolonger une exception des années et des années et des années et que ça devient une sorte d'habitude? Si nous lisons un peu, on dit effectivement, quand c'est bien utilisé, ne vous en faites même pas. Il faut savoir aider. je suis d'accord avec tous les effets positifs du nez, mais c'est plutôt les effets négatifs, et j'ai fait beaucoup d'articles là-dessus, et en tant que consultant, on a été très mal coté, parce qu'il y a certaines organisations qui voulaient qu'on démontre que cette aide-là était en train de bénéficier à la population. Je suis désolé de dire que non, en grande partie.
Comment
une
ça
aide, une aide mal utilisée, ça va, a des effets directs de baisse, même à court terme, sur le PIB. Et surtout, effectivement, sur les secteurs de biens des échanges, hein, ça va. Parce qu'effectivement, si vous êtes plus aidé, c'est-à-dire que vous manquez même, ça va, la capacité de production en grande partie. Quand c'est mal utilisé, s'il vous plaît. Quand c'est bien utilisé, on sait très bien que ça aide et vous pouvez même... C'est la raison pour laquelle, disons, commencer à être dans des activités aussi de production. Ça va. Mais maintenant, on a aussi une autre conception.
Alors, qui, quand c'est bien utilisé par le pays qui demande de l'aide ou le pays qui vient en aide?
Alors, je lis ou bien j'explique un autre petit paragraphe. Ok? On dit l'aide surtout étrangère peut être utilisée pour manipuler ou contrôler la politique. Je lis pour que quelqu'un ne dise pas que ça vient de moi. Non, ça vient des définitions simples, les inconvénients de l'aide. L'aide étrangère peut être utilisée pour manipuler ou contrôler la politique du pays bénéficiaire, limiter son autonomie et affaiblir sa souveraineté. De plus, elle peut créer une dépendance à l'égard du pays donateur, ce qui peut entraîner des problèmes économiques et sociaux à long terme pour le pays bénéficiaire. J'aimerais que chacun puisse intérioriser cette définition et se dire, est-ce que l'aide de l'USAID est dans quel cadre, à court, moyen et long terme? Je peux déjà donner mon avis. Chacun est libre, hein? Ne vous en faites pas. Je viens de lire, c'est pas un avis du professeur docteur Dadi Saleh. Ce sont les inconvénients de l'aide. Est-ce que les inconvénients de l'aide, les avantages sont là, on l'a dit déjà, donc inutile de les répéter comme le professeur l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais vers les inconvénients, parce que les inconvénients parfois sont graves. Est-ce que vous savez que vous avez des programmes qui aident, un exemple simple, qui aident les agriculteurs en leur donnant des outils aratoires, des petits trucs qu'ils peuvent avoir et qu'effectivement, il y a carence maintenant d'autonomie. Ça va? Ils deviennent trop dépendants. Chaque année, ils doivent dépendre de où? Ça va? Et pourtant, dans nos villages, les gens savaient cultiver sans l'aide de qui que ce soit.
Mais le problème, c'est le pays demandeur ou c'est la personne qui vient vous aider? Ce sont les pays qui doivent se débarrasser de toutes ces aides pour affirmer leur indépendance. Ce ne sont pas les personnes qui vous aident. Est-ce que c'est une aide qui est imposée?
Les deux. Effectivement, comme je vous ai dit, parfois nous avons des aides imposées. C'est la raison pour laquelle je lis. Ça va? Une aide étrangère peut être utilisée pour manipuler ou contrôler la politique du pays. Alors, à chacun de savoir, je ne dis pas que l'aide de l'USAID, c'était pour contrôler et manipuler les bénéficiaires. Donc, nous sommes d'abord à l'aide par rapport à la personne qui donne. Quelle est l'intention des Américains de dépenser 40 milliards de dollars, ça va, chaque année? Quelle est l'intention? Quelle est la politique? Mais lisez Trump. Trump et Elon Musk l'ont dit clairement. Ils ont trouvé que c'était flou, c'est que ça favorisait parfois le terrorisme. C'est pas moi, encore une fois, s'il vous plaît, madame. Ça va, ça favorisait le terrorisme, ça favorisait des tueries. Nonobstant, les bonnes choses qu'il y avait par rapport à cette aide-là, ça c'est Elon Musk. Ça c'est effectivement Trump. Il dit on doit faire effectivement d'audit sérieuse par rapport à l'USAID. C'est effectivement la question, quelle était la vraie mission de l'USAID? Est-ce que la vraie mission de l'USAID, c'était les Américains qui voulaient aider le peuple du monde, le Congolais par exemple, ou bien ils voulaient les contrôler, les manipuler et réduire effectivement leur souveraineté, leur autonomie? À chacun encore de répondre, mais la réponse de Trump est claire. Et Elon Musk, il a trouvé qu'effectivement que l'aide de l'USAID ne servait pas à grand chose, à part effectivement essayer de coloniser les niveaux internationaux. Donc, si nous prenons ces aspects-là, je pense que moi, je suis content. Je suis content d'une chose. Oui, je sais, parfois les gens disent, Dali, comment tu y as des positions parfois bizarres. À court, à moyen terme, il y a une sorte, ce qui a été écrit ici, il y a une sorte de, les gens attendent trop. La main qui donne, elle est toujours au-dessus. Les gens ne savent plus travailler d'eux-mêmes. Parce qu'ils attendent que l'USAID va les aider. Non! Les côtés sanitaires, nous devons avoir des politiques sanitaires qui dépendent de nous. Quelqu'un qui peut nous aider, nous disons, alléluia, mais c'est pour un petit temps, et puis nous nous prenons en charge. Quelqu'un qui doit faire l'éducation de la République démocratique du Congo, mais c'est les Congolais, c'est l'État congolais, ce n'est pas l'USAID, ou bien quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut venir suppléer, je suis d'accord. Mais quand maintenant, nous devenons trop dépendants, et c'est écrit encore une fois, raison pour laquelle j'aime en tant qu'enseignant lire. C'est écrit. Trop de dépendance de l'aide tue les développements. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, pour moi, n'est pas assez développée à cause des aides. Il faut arrêter des aides. Et il y a beaucoup d'articles. Vous allez à l'IST Goma, à l'IST Pito Bukavu, et il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'articles qui en parlent. Mais les gens échappent, ne veulent pas trop en parler.
Merci, professeur Dadi Saléo. On vous garde encore dans cette émission. Vous êtes très, très nombreux à réagir au thème de ce soir sur la page Facebook de Radio Okapi. Janvier Bissi, moi, pense que l'aide approfondit la misère. Merci à Moulanga qui nous écoute, Moulanga Jidel, qui nous écoute depuis la ville de Mbujimayi, délivrance Shekina. Bonsoir, je vous suis depuis Kinshasa. Nous devons être indépendants. Il pense que on doit être indépendant. Pasteur Justin Matadi estime que ces aides de l'USAID, peu de gens en bénéficient. Voilà, la population et le pays n'en bénéficient pas. John Mukanya, à cause de l'aide internationale, l'Afrique s'est livrée au diable, je ne sais pas qui veut parler. Alors, Norbert Dossinguizé, je vous suis depuis Goma au Nord Kivu. La suspension de cette aide aura des conséquences significatives sur des milliers de personnes, particulièrement ceux de notre pays. Il dit qu'à Modeste, une aide peut être mal utilisée si elle n'atteint pas les bénéficiaires, en particulier, voilà, Patrick Valéry Mukadi, qui nous fit depuis Mbujimayi, merci, dans le Kasaï oriental. Augustin Kiaroumé, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Je rappelle que vous êtes doyen de la société civile du Sud Kivu, activiste de droits de l'homme et consultant indépendant avec plus de 30 ans d'expérience en gestion des crises humanitaires en RDC et ailleurs. Vous êtes très engagé dans les processus de localisation de l'aide humanitaire. Votre réaction, votre avis sur la suspension des activités de l'USAID?
Merci beaucoup de m'avoir invité à la discussion. Mais je dois dire, c'est que Donald Trump n'est pas le président du monde. Il est le président des États-Unis. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Alors, il a donné une promesse de campagne.
Et
il avait dit.
On vous suit difficilement, Augustin Karoumé. Je sais pas, essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Encore, si vous avez activé le mode main libre, merci de les désactiver. Vous êtes là?
Est-ce que là, vous m'écoutez?
Oui, on vous suit.
D'accord. J'étais en train de dire ceci. C'est que le président Donald Trump est d'abord un président des Américains, n'est pas président du monde. Et quand il prend une décision, il prend une décision qui avantage d'abord les Américains. Il a fait une promesse de campagne aux Américains qu'il va revisiter le fonctionnement de l'USAID et ce qu'il est en train de faire. Donc, vis-à-vis de sa population américaine, il est en train de faire une bonne chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est en train de faire un exercice d'assainissement des finances publiques pour glaner plus de ressources. Comme il aime bien le dire, to make America great again. Vous m'écoutez jusque-là?
Vous avez une radio à côté, monsieur Karoumé?
Non, je n'ai pas de radio à côté de moi.
Parce qu'on a un retour qui n'est pas très agréable. On vous écoute.
D'accord, donc. Il est en train d'essayer de glaner le maximum possible de ressources pour que son pays reprenne son hégémonie économique. Et il a pensé que, bon, voilà, il fallait d'abord questionner les dépenses de l'USAID. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'un président est avant tout là pour le bien-être de sa population. Et la charité bien ordonnée, comme on dit, commence par soi-même. Et donc, s'il veut glaner de l'argent pour son pays, moi, je n'y trouve pas d'inconvénient. Allô, mais... Allô?
Allez-y, M. Karoumé, vous êtes en ligne. Alors, je pense qu'on a perdu la réalisation. La réalisation va essayer de le rappeler, professeur Michel Bissa. Alors, beaucoup d'auditeurs disent, pensent que cette suspension aura des conséquences significatives sur des milliers de personnes en RDC particulièrement. Alors, quels sont les secteurs qui nécessitent une attention urgente et un soutien financier immédiat pour atténuer les effets de cette suspension?
Merci madame, je suivais avec intérêt mon collègue qui est intervenu avant moi et je partage une bonne partie de ses analyses. Vous savez que dans ma faculté, nous nous battons pour l'autonomisation et pour les solutions endogènes et internes. Mais il faut quand même qu'on sache de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici. Nous sommes en train de parler d'une aide, d'une contribution de l'USAID qui contribue à réduire les prix des médicaments contre l'hépatite C. Vous savez, madame, que sur le marché pharmaceutique mondial, une plaquette contre l'hépatite C, c'est 25 000 dollars. J'ai dit 25 000 dollars. Et si nous réussissons à l'acheter ici sur le marché pharmaceutique local à 500 dollars, c'est notamment parce qu'il y a 24 500 qui sont compensés. Je suis en train de parler d'une agence qui a pris en charge plus de 80% des vaccins contre Ebola, contre Mpox, contre COVID-19. Je suis en train de parler de l'agence qui intervient à plus de 85% dans la prise en charge des antirétroviraux. Aujourd'hui encore, je pense que le ministère des Plans a publié les résultats de l'enquête 1-3 et qui montre que en RDC, nous avons autant de personnes vivant avec VIH-SIDA qui jusque-là bénéficiaient à la fois des antirétroviraux, bénéficiaient des médicaments contre la tuberculose. Les gens appelaient ça des bénéfices gratuits. Mais en réalité, ce n'était pas gratuit, c'est l'agence au développement qui aidait. Est-ce que notre pays est capable, dans les 3 mois qui suivent, de continuer à donner les antirétroviraux gratuitement à tous les PVV? Je doute. Cela veut dire que c'est une urgence des urgences. De toute façon, moi je travaille dans ce domaine et je peux vous dire que hier encore j'ai quelqu'un à Kikwit qui est PVV et qui m'a dit qu'il était obligé d'acheter l'antirétroviraux déjà hier. Nous sommes en train de parler d'un programme qui finance le secteur agricole, l'intelligence artificielle, l'amélioration de l'état des connaissances sur les tourbières, sur les ressources en eau, sur les forêts. Vous savez quel est le niveau de notre budget de la recherche scientifique? C'est pourquoi moi je n'ai jamais accepté qu'on appelle cela aide, parce que quand ils viennent, ils ne viennent pas pour vous développer. Ils viennent aussi parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de connaissances, parfois des marchés, et c'est des mécanismes d'entraide ou au moins des qui mettent, et puis au finish ils vont prendre. Ce ne sont pas des aides, mais c'est une sorte de dette. Mais maintenant, tous les pays du monde sont dans ça. Donc je pense qu'actuellement, nous avons des urgences dans le domaine d'abord de la santé, dans le domaine de l'amélioration de l'état des connaissances. Moi-même, au moment où je vous parle, je suis impliqué dans un projet de recherche qui ne va plus continuer parce que le budget ne sera plus là, au moins le budget doit attendre. Et ce projet-là, c'est un projet sur les maladies zoonotiques, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme dans les milieux aquatiques. Vous vous imaginez ce que cela peut vouloir dire? Supposons qu'aujourd'hui, Ebola surgisse ou Mpox que nous avons qui n'est pas totalement éradiqué, sommes-nous capables aujourd'hui au niveau du pays d'intervenir par rapport à cela? C'est de ça que nous sommes en train de dire. Je suis d'accord que l'État congolais doit prendre en charge, doit être la locomotive, et que ce qui vient de l'extérieur doit être un complément. Je suis d'accord que c'est un paradoxe que ce soit les autres qui donnent une grande partie par rapport à nous-mêmes, mais je vous assure qu'à court terme, ça serait une catastrophe, et toutes les solutions que nous pouvons envisager tout de suite, à part la solution sur la mise en place de financement innovant, qui va aussi prendre plus d'un trimestre, parce que je vous ai parlé des programmes de l'alimentation, je vous ai parlé des programmes de médicaments, et ceux qui sont dans le domaine de la santé, Ceux qui sont atteints de VIH-SIDA ne peuvent pas dire que l'aide ne les arrive pas.
Merci.
Ou au moins, s'ils ne le voyaient pas, je vous assure qu'ils le verront et ils sentiront l'impact à tout le temps.
Alors,
si vous permettez, je peux parler de solutions perspectives.
Non, professeur, on va vous redonner la parole. Hein. On me signale que Augustin Karoumé est en ligne. Augustin Karoumé, vous êtes là?
Oui, je suis là, vous m'écoutez?
Oui, allez-y, vous avez la parole.
D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. Je disais que, voilà, Donald Trump n'est pas le président du monde, il est avant tout le président américain. Et il a fait une promesse de campagne à ses électeurs que, voilà, aussitôt passé, il revisitera l'utilisation et le fonctionnement de l'USAID. Donc, chose promise, chose faite, il est en train de réaliser l'agenda qu'il a promis à ses électeurs et à sa population. Vous m'écoutez jusque là?
On vous écoute, allez-y. S'il y en a un souci, on vous dira qu'on a, qu'il y a un souci.
D'accord. C'est que la deuxième chose, c'est qu'il est en train de faire un exercice d'assainissement des finances publiques. Il veut comprendre. Il veut comprendre chacune de ces institutions qui utilisent le maximum, la plus grande partie du financement américain, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, je trouve que sa démarche est légitime de suspendre momentanément des activités pour que ces voies d'un peu plus clair. Un président est avant tout là pour le bien-être de sa population. Et moi, je salue vraiment cette recherche, cette démarche d'assainissement des finances publiques et d'avoir un œil un peu plus accru sur ce qui est en train de se passer avec l'argent du contribuable américain. On dit que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, Donald Trump est en train de tout faire. C'est qu'il a promis aux citoyens américains pour protéger leurs taxes, pour protéger leur travail. Et en parenthèse, je voudrais vraiment inviter les leaders congolais à tous les niveaux, à cet exercice qui est noble de redevabilité en intéressant nos finances publiques et à ne pas toujours être en dépassement alors qu'ils ont presque déjà la part du gâteau du budget national. Donc c'est ça, moi, c'est ça que j'allais dire d'entrée de jeu. Il n'est pas président du monde, il est président américain. Et maintenant, pour moi, je dis, il a péché plutôt par la démarche de sa décision. C'est là qu'il a péché. Le respect mutuel est un principe fondamental du partenariat. Même si, comme mon prédécesseur a dit, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Mais la condescendance dans cette décision frise le racisme. Moi, je crois, c'est vrai que c'est leur choix. C'est le choix américain de faire comme ils ont fait. Ils ont fait, mais je crois que le partenaire devrait être associé à cette décision. Et on ne peut pas se lever un matin et dire à son associé, à son époux, à son épouse, mais regarde, moi je suis parti pour 90 jours. Et je verrai après 90 jours si on reste ensemble ou on ne reste pas ensemble. C'est pas normal, c'est pas courtois, c'est pas poli, c'est pas respectueux. On ne peut pas faire là, on ne peut pas faire ça. Et un papa ne peut pas se revenir à la maison un soir et dire aux enfants, c'est terminé le fromage, c'est terminé le jambon, c'est terminé le saucisson, etc. sans leur expliquer. Non, il doit dire quelles sont les raisons, quels sont les fondements de sa décision. Il doit les associer à la décision. Et je suis sûr et certain que si les partenaires étaient associés à cette décision, ils n'auraient pas cette levée de bouclier, ils n'auraient pas tout s'étonner. Donc, moi je crois qu'un bon visionnaire, un bon leader doit être visionnaire. Et un visionnaire doit savoir anticiper. Il y a des ouvrages, de santé par exemple, qui sont à moitié achevés. Je prends l'exemple d'une fosse de latrine. On a déjà creusé, on a déjà construit à l'intérieur de la fosse. Il manque maintenant la superstructure pour faire ce travail-là, pour rendre les toilettes utilisables. Alors quand on arrête comme ça, à quoi aura servi cet argent qu'on a dépensé pour creuser, pour construire l'intérieur de la fosse, et on ne fait pas la superstructure pour que la toilette soit utilisable? Il y a des enfants de moins de 5 ans, il y a des femmes enceintes qui sont en train de suivre dans des centres thérapeutiques, dans des centres nutritionnels, un traitement contre la malnutrition, des choses comme ça. et on coupe soudainement, on dit ok, c'est terminé. Mais ça, ce sont des conséquences qui sont irréversibles. Ils vont rechuter, certains vont mourir.
Mais les pays devraient prendre la relève, Augustin Karoumé. Il ne faut pas toujours compter sur l'aide internationale. Le pays doit prendre la relève. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'il existe des alternatives crédibles pour compenser la perte de l'aide de l'USAID? Je prends le cas de la RDC.
La première chose pour moi, c'est que chaque gouvernement responsable devrait tirer toutes les leçons qui s'imposent de cette décision. Et la première disposition à prendre, c'est de dire, nous devons anticiper que ce ne soit pas peut-être USAID seul qui fasse ça. L'Union européenne peut aussi faire. Les Chinois peuvent faire. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, on va se rabattre vers l'Union européenne, vers les Japonais, etc. Tous peuvent décider de dire, okay, comme les Américains, nous protégeons nos populations, nous n'aurons plus rien à la RDC. Donc moi, je crois que la RDC devrait prendre cette décision comme plutôt une opportunité pour se remettre en cause. Et à se remettre en cause, c'est d'abord par la bonne gouvernance. Moi, je suis sûr, je suis convaincu de par des informations sûres que je reçois auprès des secrétaires généraux, des autorités, que si on applique une bonne gouvernance, on peut glaner suffisamment de fonds en arrêtant la corruption, en arrêtant les niveaux statutoires des devis des institutions de la République, on peut faire même plus d'argent, plus du milliard que les États, les USAID nous donnent, et on peut faire notre propre développement humanitaire.
Augustin Karoumé, on vous garde encore dans cette émission. Reste en ligne, on vous garde encore dans cette émission. Le temps juste d'ouvrir notre standard pour ces nombreux auditeurs qui appellent, qui veulent aussi intervenir et donner leur point de vue par rapport à ces sujets. On va se rendre à Kananga, dans la province du Kasaï central, pour écouter cet auditeur.
C'est Bernard depuis la ville de Kananga. Et à mon avis, je pense que cette décision est bonne pour nous stimuler à nous prendre en charge. Dans ce pays, tout y est. Et qu'est-ce qui nous manque pour exploiter notre terre et se développer soi-même? La dépendance est un facteur du sous-développement. Je pense, à mon avis, que le gouvernement doit mobiliser les fonds dans le but de créer nos propres entreprises. Si aujourd'hui la Chine s'est développée, c'est grâce à l'agriculture. Et c'est avec l'initiative de Mao de la Chine que la Chine s'est développée aujourd'hui. Faisons aussi de la sorte. Cette situation doit nous interpeller pour mettre fin à cette situation gravissime en RDC.
Professeur Dadi Salé.
Comme on venait de le dire, la dépendance à l'égard du pays donateur. Et c'est de ça qu'il vient de parler. Vous savez, nous avons eu, permettez-moi de le dire, des gouvernements, depuis l'indépendance, qui ont jeté les responsabilités auprès de l'aide. Et effectivement, je voulais dire au professeur, à mon collègue professeur, qu'effectivement, gouverner, c'est prévoir. Et exactement, les gouvernants qu'on a dépendent de nous. Si nous n'avons pas, nous ne savons pas élire des gens capables de faire en sorte que le prix de médicaments que nous avons puissent être des prix abordables, ben je vous assure, je fais une recherche là-dessus, ça va. Le fait effectivement qu'on compte sur l'aide fait en sorte qu'on ne produit même pas nous-mêmes des médicaments. On ne produit même pas nous-mêmes certains produits, parce que ça favorise directement les entreprises américaines, chinoises et les autres entreprises. Presque tout ce que nous consommons ici venant de l'aide, à plus de 90% sort de l'extérieur. Donc ça défavorise immédiatement la production interne. C'est là où on a parlé dès le départ déjà, ça va que le PIB baisse à cause de l'aide, parce que ce n'est pas une production interne dans le vrai sens du mot. Donc je comprends qu'il y a des effets immédiats. Je pense que beaucoup de nos les gens qui nous suivent sont d'accord avec nous, ça va. Il y a des effets immédiats et qu'il faut pallier. La première, c'est l'argent du peuple congolais. Or, le peuple congolais a un budget, mais toutes les fois qu'on parle de ça, les gens pensent que c'est un jeu. Non, avec ce que nous venons de vivre immédiatement, nous devrions avoir une réunion, et c'est ce que nous suggérons à l'État congolais, une réunion d'urgence pour mettre des task force. Ok, pour arriver à faire une réorientation budgétaire. Parce que quand nous parlons de plus ou moins 1 milliard de dollars, ça va, et que nous avons un budget de 15 milliards de dollars, donc il faut une réorientation pour couvrir, tant soit peu d'abord, par le propre Congolais, tout ce 1 milliard de dollars.
Donc si nous ne les faisons pas, ben ce n'est pas une politique, ça va, de la République démocratique du Congo où on doit se prendre en charge. $1 milliard, c'est quoi? Parce que c'est pour la santé de nos enfants. C'est pour effectivement les déplacer à l'interne. Ce sont des Congolais qui souffrent. Donc, c'est un milliard là paraît effectivement par des salaires exorbitants des députés, des présidents, des DG. Tout le monde le sait, s'il vous plaît, madame. C'est ça le problème. Ça s'appelle irresponsabilité. Donc, la première chose, c'est une révision en urgence budgétaire pour combler ces trous-là que le professeur est en train de dire et que notre co-débatteur, expert, n'est-ce pas, vient de dire. C'est facile! Ce n'est pas facile parce que nous n'allons pas essayer de combler les trous de besoins du peuple américain. Ici, nous sommes en train d'essayer de combler les trous de besoins du peuple congolais. Ce qui fait que ça devait se faire par les gouvernements congolais. C'est la peine et il faut l'exiger. Ce n'est pas à demander et ce n'est pas à quémander, chers chercheurs. Je suis expert en développement, je vous ai dit, tant que nous ne comprenons pas nos propres responsabilités, nous allons faire ce qu'on appelle les cercles vicieux du sous-développement. Si nous continuons à compter sur l'aide, nous allons tourner en rond et la dépendance va être là et nous allons penser que c'est la dépendance la chose la plus normale. Non, nous devons couper vers un cercle vertueux de l'indépendance. Le cercle vertueux de l'indépendance, c'est un peu pour dire à ce moment précis, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Il faut accepter de casser les œufs, mais bien sûr, on ne va pas laisser nos enfants mourir. Je viens de le dire immédiatement, sur 15 milliards de dollars, vous pensez qu'on ne peut pas trouver 1 milliard de dollars. Mais malheureusement, nous allons nous concentrer sur le fait de se plaindre, matin, midi, soir, comme d'habitude, on va se plaindre, vous savez, il y avait comment notre co-débatteur vient de parler des iris noirs ou bien des fausses sceptiques. Ben voilà, raison pour laquelle je viens de dire, en urgence nous exigeons une révision budgétaire, une réorientation budgétaire pour couvrir tout cela. Mais bien sûr, il ne va pas y croire parce qu'il pense que nous ne devons avoir que des politiciens qui ne comprennent pas qu'ils sont au service de la nation. Soyons exigeants.
Après Kalanga, direction Kinshasa. On revient ici à Kinshasa pour écouter cet auditeur, cet autre auditeur.
Je suis Willy Gaston Kumba à Kinshasa. L'USAID, comme d'autres organisations en appui au développement, ont échoué lamentablement dans leur mission. Depuis des années que ces organisations sont en appui aux populations locales, le développement à la base n'est toujours pas garanti malgré les budgets colossaux. Pour répondre aux besoins de la population, je pense que l'autoprise en charge, l'appui du gouvernement central par des programmes centrés à la base, les subventions aux entreprises locales restent la meilleure façon de venir en aide à ces populations. Il est temps que nous apprenions à pêcher que manger du poisson. Merci.
Alors, professeur Michel Vincent, vous avez suivi ces quelques propositions faites par cet auditeur pour arriver à compenser la perte de l'aide de l'USAID. Qu'est-ce que vous proposez pour répondre aux besoins de population après la coupure ou la suspension de cette aide?
Oui, madame, je peux vous donner des suggestions. Six suggestions.
Alors, on va essayer.
Trois externes.
Hein. Oui, le sujet est très intéressant. Professeur Bissa.
Que le ministère du plan ou la primature n'ait pas été associé à ce sujet.
Non, nous avons contacté. Professeur Bissa, s'il vous plaît, nous avons contacté le ministère du plan pour participer à cette émission. Malheureusement, personne n'était disposé à prendre part au débat de ce soir. Voilà pourquoi nous sommes. Organisons cette émission avec vous, nos experts, hein, voilà, en matière de développement. Oui. Voilà. Madame, ils ont été contactés, ne vous inquiétez pas. Alors, je disais, on va essayer d'être concis, hein, parce que nous tournons vraiment vers la fin de l'émission. Aller droit au but, qu'est-ce que vous proposez?
Alors, au niveau interne, je propose trois mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le financement innovant. Il faut que la RDC soit capable, dans un bref délai, de mettre en place des mécanismes, de nouvelles sources de financement, comme par exemple de la canalisation des taxes sur l'informel, la lutte contre la corruption, la réduction du train de vie des institutions, et surtout éviter que tout cela ne se fasse en créant une pression fiscale. Parce qu'on doit éviter à la fois l'enfer fiscal, le paradis fiscal et le purgatoire fiscal. Deuxièmement, il faut réorienter la moisson de ce qu'on aura vers les secteurs les plus impactés, c'est-à-dire le secteur humanitaire, la santé, l'agroalimentaire, la recherche et tout. Deuxième élément, je vous ai dit, madame, que le progrès le plus significatif dans l'histoire de l'humanité et du développement l'ont été en temps de crise ou à propos de crise. Et là, nous sommes face à une crise. Ce qui veut dire qu'à ce stade, il faut que la RDC trouve en cela une opportunité pour les discours souverainistes. Parce que les ISA sont dans cette approche. Donc, nous devons aller vers l'exploitation de nos blocs pétroliers, de nos gaz, de nos minéraux stratégiques et de notre cobalt et coltan et forêt. Vous savez que nous avons des blocs pétroliers. Il n'y a pas longtemps, la RDC a retiré ces blocs pétroliers du marché à la suite d'une pression internationale parce que justement on voulait préserver l'équilibre du climat mondial. Mais à partir du moment où nous semblons faire des efforts pour le monde entier, alors qu'il n'y a pas cet équilibre, il faut vraiment que la RDC exploite ses ressources pour résoudre les besoins socio-économiques de base. Ça, c'est possible. Et puis, orienter un fonds vers l'agriculture durable, c'est-à-dire vraiment l'agriculture qui doit répondre, par exemple, le maïs, c'est dans 3 mois que nous faisons. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, nous avons aussi 3 possibilités. Je demeure convaincu que les États-Unis d'Amérique utilisent leur agence c'est cette mesure pour la renégociation de l'aide au développement. Il est possible que le moment venu des ISA puissent vouloir dire que pour restaurer leur programme d'aide, qu'on puisse réajuster notamment en combattant ou en disant l'influence des Chinois, des Russes dans le secteur minier, des minéraux au Congo. Ça, c'est aussi une option et c'est à la RDC de se préparer à cela. Deuxième possibilité au niveau international, c'est aussi le repositionnement des nouveaux acteurs. Madame, aucun pays au monde ne se suffit. Même les États-Unis d'Amérique sont endettés. C'est d'ailleurs le pays le plus endetté au monde. Même si nous réussissons à produire, à nous suffire nous-mêmes, nous aurons besoin de crédits, nous aurons besoin de l'aide, nous aurons toujours besoin de la coopération internationale. La RDC peut, par exemple, s'orienter vers la Chine, la Russie, l'Inde, parce que jusque-là, il y a eu des difficultés pour pouvoir y aller. Ça, c'est un élément. Et donc, c'est la diversification des partenariats. Ça, c'est au niveau international.
Troisièmement.
Mais l'ensemble de cette chose demande une intelligence stratégique. J'adhère à l'idée du professeur de Bukavu qui a proposé l'idée de task force. Et je pense que maintenant qu'il y a le professeur Eberand au niveau du Conseil national de sécurité, espérons qu'il comprendra la nécessité d'avoir des équipes spécialisées pour pouvoir mettre en place le financement innovant pour compenser ce qui est fait.
Merci.
Donc voilà, madame, par rapport, pour clôturer mon intervention, par rapport au budget, à la question du budget, quand on parle de 15 milliards de dollars, ce n'est pas de l'argent qu'on a en liquide, c'est une prévision. Mais deuxièmement aussi, il ne faut pas oublier que le discours de 15 milliards de dollars, qui a déjà été contesté par plusieurs spécialistes, inclut aussi notamment les budgets annexes. Et vous savez que ces milliards de dollars, les 1 milliard dont on parle de l'USAID, rentrent chez nous à travers des programmes qui sont portés dans les budgets annexes. Donc rien qu'en enlevant cela, on ne peut plus parler de 15 milliards.
Merci, aujourd'hui, ce n'est pas un débat sur les budgets. Michel Lobissa, on vous a suivi. Merci, professeur. On va écouter très, très rapidement cet autre auditeur, ce dernier auditeur qui nous appelle des Bounia, dans la province de l'Ituri.
Georges Kilangalanga, depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. La coupure du financement de l'Agence américaine de développement est un coup dur pour la RDC, principalement pour les provinces de l'Est, victimes d'insécurité et où plusieurs organisations financées par l'USAID ont déjà suspendu certains de leurs programmes comme Merci Corps et Solidarité Internationale notamment. Cette nouvelle vient sûrement aggraver la situation humanitaire catastrophique dans un pays qui semble accepter la dépendance à l'aide extérieure. Même les toilettes de nos communes et quartiers sont construites par le financement extérieur. Pour répondre aux besoins des populations locales, la restauration de l'État doit être premièrement assurée et ensuite l'État doit prendre ses responsabilités en ayant une vision claire de son développement fondée sur un leadership et une gouvernance de qualité.
Alors, Augustin Karoumé, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de cet auditeur de Bounia, très brièvement?
Ah, ben bien, je suis vraiment désolé parce que moi, je me suis un peu frustré, j'ai eu un très peu pour intervenir.
Ah, mais
je
vais
dire de prime abord que ce n'est pas l'argent qui manque à la RDC. La RDC a beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus. Si vous lisez le rapport de Bloomberg sur la corruption à la RDC, on dit que chaque année, il y a 50 milliards de dollars qui partent en corruption dans ce pays. Et j'ai parlé de la bonne gouvernance. J'étais à Kinshasa, dans un atelier, un secrétaire général se confie à moi et me dira, chaque fois qu'il y a de l'argent, et qu'on se rende compte que non, voilà, les caisses de l'État sont en train de gonfler, on crée une agence quelconque, en duplication des organes du gouvernement, en duplication des organes de la présidence de la République, etc. Donc je pense que nous devons nous regarder droit dans le miroir. Ça fait 30 ans qu'il y a USAID là. Nous avons vécu avant USAID. Nous pouvons vivre et vivre mieux après USAID. Donc moi, ce que je voudrais vraiment, vraiment dire, c'est que au niveau de notre gouvernement, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Si Donald Trump a voulu regarder pour assainir les finances publiques, pourquoi nous on ne peut pas se regarder dans les yeux et dire comment sont nos finances publiques? Regardez le budget de 2025. La part qui est réservée juste aux institutions. Parce que 75% du budget national, c'est pour 4-5 institutions. Et maintenant, on dit, non, le reste, USAID le fera. Donc moi, je m'inscris en faux avec ceux qui disent que 15 milliards, c'est difficile à mobiliser. En parenthèse, j'ai oublié de vous dire que j'enseigne à l'Université catholique de Bukavu le cours de gestion des crises humanitaires. Je voudrais pointer, j'ai dit toujours à mes étudiants, il n'existe jamais de crise humanitaire, il n'existe jamais d'aide humanitaire sans agenda. Agenda ouvert ou agenda taché. Si USAID a pensé que son agenda en FDC est fini, nous devons regarder et nous prendre en charge. Un, ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. C'est la bonne volonté plutôt qui nous manque. Et de trois, si nous devons demander au ministère des Affaires humanitaires et de la solidarité nationale, ne plus que d'affecter de façon appropriée son budget actuel, on ferait toute une différence. Ce sont les ministres, ce sont les députés nationaux, ce sont les membres du gouvernement qui se constituent en ONG pour se faire financer par le ministère des Affaires humanitaires et de la solidarité nationale pour je sais quel objectif. Chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, c'est une délégation de 30, de 40 personnes qui quittent pour arriver et ils vont finir tout l'argent dans les hôtels, dans les voyages, dans les perdiens, etc. Et ce qui arrive, finalement, la population est insignifiant. Je vous ai dit que je suis très, 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 très combattant dans ce qu'on appelle la localisation de l'aide humanitaire. Ça, c'est un concept qui a été mis en place en mai 2016 par Ban Ki-moon, le secrétaire général honoré des Nations Unies. Il a dit à Istanbul que si sur 100 dollars qui venaient de la poche des bailleurs de fonds, seulement 0,02 dollars arrivaient à destination finale des personnes qui sont en besoin. Donc 99,8 restent chez les propriétaires. J'envoie donc le poids la voix du prospecteur qui disait il y a l'aide qui est là pour vous développer et il y a l'aide qui est là pour vous assujettir. Qu'est-ce que nous faisons pour en renverser la tendance.
Alors,
c'est
professeur,
pas pour conclure,
professeur Augustin Karoumé, quelle leçon tirer de cette expérience? Ça sera votre conclusion. Hein. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Merci beaucoup. Comme conclusion, je reviens en disant ce que Donald a fait, il le fait pour l'intérêt des Américains. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose pour notre propre intérêt. Et on doit commencer par la bonne gouvernance. Ce n'est pas de l'argent qui nous manque. L'argent est là. Le professeur a aussi donné d'autres orientations par rapport au financement innovant et tout ça. J'adhère à toutes ces propositions-là. Et à la fin de la journée, nous devons prendre cette décision de l'USAID comme un appel à nous regarder droit dans les yeux, nous regarder dans les miroirs et dire nous pouvons nous prendre en charge. L'Afrique du Sud vient de le faire. L'Afrique du Sud n'en mourra pas.
Merci.
Les pays du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont pris la décision de se séparer et de se sevrer, de grandir.
Merci.
Ils en sont morts. Donc nous aussi, nous pouvons nous passer de cette aide-là si nous adoptons un comportement responsable. Et ce comportement responsable, je l'attends des institutions de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous avons trois institutions. Nous avons la présidence, nous avons le gouvernement, nous avons les autres, les autres instances et le Parlement. Et nous avons finalement les nouvelles agences qui se créent pour se dupliquer, se tripliquer.
Merci professeur Karoumé, merci beaucoup professeur. Obligé de vous interrompre parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Professeur Dadi Salé, quel rôle le gouvernement de la RDC doit-il jouer dans la gestion de cette crise, hein, dans la recherche de solutions alternatives pour répondre aux besoins des populations?
Oui, je pense que c'est une grande opportunité qui devrait être traitée au niveau stratégique et opérationnel. Premièrement, comme je l'ai déjà proposé, et nous sommes tous d'accord sur ça, dans 48 heures au maximum, le gouvernement peut créer de task force. Deuxièmement, identifier le besoin et les manques urgents dans 72 heures après. Et troisièmement, faire une réorientation budgétaire, une révision budgétaire dans plus ou moins 2 semaines, parce que c'est possible, 2 semaines, et que, effectivement, faire en sorte que nous puissions avoir une économie des crises et des investissements des crises qui vont corroborer, concorder avec les investissements des guerres que nous avons, qu'on devait déjà avoir, et une économie des guerres. À ce moment-là, je pense que nous pouvons arriver à endiguer la situation. Si nous restons à rien que parler, et on ne touche pas au budget, et on espère seulement à l'extérieur, ben, ça sera encore des politiques trop dépendantes et que ça ne nous honore absolument.
Merci, professeur Dadi Salé. Merci à ces nombreux internautes qui nous suivaient sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Freddy Bikumbi, Bertin Kassiama. Merci à Mimi King, j'étais à la mise en onde. Équipe vidéo, Clément Chimanga, Jonathan Folanier, Hervé Voka, Martin Sobujangui a supervisé ce magazine. Présentation et coordination, Kelly Mpouté. Restez branchés sur Radio Capille.